Bonjour. Elles sont plus de 600 en France, elles assurent un maillage territorial exceptionnel. Présentes dans le cœur de nos villes, dans les banlieues, dans les zones rurales, dans les vallées les plus enclavées de montagne, en métropole comme outre-mer, elles sont les outils de la communication citoyenne, les vecteurs de la communication sociale de proximité.
La semaine de la presse et des médias à l'école, lancée en 1989 par le ministère de l'Éducation nationale sous le pilotage du CLEMI, le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, marque donc cette année sa 22e édition. La précédente avait mobilisé plus de 4 500 000 élèves, plus de 330 000 enseignants dans près de 17 000 établissements scolaires.
L'action vise à mettre en partenariat les écoles et les médias afin de développer chez les élèves une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information. L'éducation aux médias a d'ailleurs une place grandissante dans les objectifs généraux du système éducatif.
1885 médias participent à cette édition 2011, parmi eux autour de 280 radios associatives. Le Syndicat national des radios libres, qui est un partenaire fidèle depuis longtemps de cette semaine de la presse, a lancé cette année le pari de réaliser une émission construite par des élèves et leurs écoles associées à la radio de leur territoire. 20 radios, donc 20 écoles. Des centaines d'élèves de 5 à 18 ans répartis sur 15 régions différentes. Voilà ce que nous vous proposons de retrouver sur les ondes de votre radio locale.
Dans cette émission, nous irons à Marseille grâce à Radio Galère. De ce mur embryonné, en Saône-et-Loire, viendront les voix bourguignonnes de Radio Cactus. La parole sera ensuite à Radio Bocage en Auvergne à Moulins.
Radio Mono de Châlons-en-Champagne nous enverra des bulles radiophoniques de Champagne-Ardenne. RPL sera une voix de Lorraine venue de Besse.
Passage par Radio Alpes-Mancelles à Fresnay-sur-Sarthe dans le nord des Pays de la Loire. D4B de Mel nous conduira dans les Deux-Sèvres en Poitou-Charentes.
Nous écouterons des reportages venus de la région Nord-Pas-de-Calais avec PFM, plein sud avec Radio Mont-de-Marsan, bien évidemment, dans les Landes en Aquitaine.
Nous nous quitterons en n'en sachant plus sur les algues vertes grâce à Radio Nord-Bretagne à Plouigneau, près de Morlaix dans le Finistère.
Bonjour à Marseille. Radio Galère, vous vous êtes associé dans cette semaine de la presse et des médias au Collège Milo et nous allons savoir ce que lisent les jeunes.
Collège Darius Milhaud à Marseille, il y a un bœuf sur le toit, en bronze. Mais il en faut plus pour faire rêver les élèves. C'est de leur lecture qu'ils vont vous parler. Pour Ambre et Julien, le top, c'est J.K. Rowling et Harry Potter.
La particularité de cette série, c'est que, en fait, on suit les héros pendant qu'ils grandissent. Et en fait, c'est ça ce qui est bien. En fait, on voit les changements qui s'opèrent entre eux, comme ils nous ont accompagnés. On a l'impression de bien les connaître.
Des fois, tu vois les sorciers, la magie, fantastique, c'est merveilleux, quoi, un peu comme un monde merveilleux. En même temps, il y a la partie sombre, le mal.
Qu'est-ce que tu aimes comme littérature? C'est souvent la littérature fantastique comme ça, ou tu lis bien d'autres livres de bien d'autres genres?
Je lis beaucoup de fantastique, mais aussi des histoires réelles. Je lis un peu de tout, en fait. Je lis 3 bouquins par semaine.
Toi aussi, tu lis beaucoup?
Oui, je lis beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une grosse série, c'est Les Chevaliers d'Emeraude. C'est fantastique et apparemment, ça a fait beaucoup de succès aussi.
Toujours avec nos jeunes du collège Darius Milhaud de Marseille, Noémie, Marjorie, 16 ou 17 lunes. On poursuit dans la saga et la magie avec Camille Garcia et Margaret Stoll.
Dans 16 lunes déjà, il y a l'histoire d'amour entre Elena et Ethan. Et après, donc à la fin de 16 lunes, lors de son anniversaire, Elena, pour ses 16 ans, il y a sa mère qu'elle croyait morte qui revient pour la tuer.
Ouais.
Ouais.
Et vous, ça vous fait quoi de vous transporter dans des mondes imaginaires?
Ah ben, ça nous divertit et une fois qu'on a accroché, ben, c'est dur à se détacher du livre, quoi.
C'est différent de tout ce qu'on a pu déjà voir avant.
C'est bien écrit ou...
Ouais. Ben, c'est facile à lire, c'est pas de la grande, grande littérature.
Donc là, vous le recommandez à tous les gens de votre âge, ouais, ça vous a plongé dans... ça vous a bien plu. Ouais.
Mmh.
Les jeunes de la MFR de la Clayette, au micro de Radio Cactus, à Saint-Mur-en-Brionnais, en Saône-et-Loire, découvrent le rôle de l'AFDI dans la solidarité internationale.
Il existe en France plusieurs associations qui interviennent dans les pays en voie de développement. C'est le cas de l'association AFDI de Saône-et-Loire et de Franche-Comté. Celle-ci intervient dans les pays comme le Cameroun, Colombie, Tchad et Cambodge. Plus de 6000 militants se sont engagés dans les AFDI régionales et départementales. C'est un secteur prioritaire pour lutter contre la faim et la pauvreté. Monsieur Gauthier, responsable de la section de Saône-et-Loire, nous décrit cette association.
C'est une association agricole qui est née sous l'impulsion des grandes organisations agricoles françaises. Voilà donc les grands objectifs. Donc au sud, accompagner les paysans à monter des structures agricoles. Et au nord, on essaie de faire du, je ne vais pas dire du lobbying, mais au moins de la sensibilisation, de l'éveil aux problèmes que rencontrent les paysans du sud.
Pouvez-vous nous citer d'autres domaines où vous intervenez ?
Au niveau national, mais même au niveau local, départemental ou régional, il y a de la sensibilisation auprès des responsables agricoles pour que quand ils participent à des discussions sur l'évolution de l'agriculture en France, qu'ils prennent en compte les problématiques des pays du Sud.
Les paysans malgaches sont différents des agriculteurs français, mais ont des points communs.
Vos champs d'action sont très variés. À quels professionnels faites-vous appel pour réaliser vos missions ?
Tous les paysans qui témoignent de comment on résout nos problèmes sur nos exploitations. Le cœur d'AFDI, c'est quand même l'échange entre agriculteurs. Même si on est de plus en plus épaulé par des gens du milieu para-agricole, on vit réellement nos problèmes, donc on est plus à même pour en discuter avec les gens qui ont le même type de problème dans d'autres pays du monde, même si c'est dans des conditions économiques complètement différentes. Je prends l'exemple du sud-ouest malgache. L'exploitation moyenne, elle fait 2 hectares. C'est une famille avec les parents, éventuellement les enfants, et qui travaillent tout à la main avec une petite bêche qu'ils appellent l'engade. Donc c'est incomparable avec nos structures agricoles chez nous. Néanmoins, sur le fond, moi, je reste persuadé qu'on a quand même un certain nombre de problèmes communs et qu'on veut partager avec les paysans dans d'autres régions du monde sur ces sujets.
L'AFDI intervient dans les pays en voie de développement pour aider et former les paysans dans la gestion de leur exploitation. Leur action sur le terrain couvre un faible pourcentage du territoire. L'AFDI veut sensibiliser le grand public et les jeunes pour se développer et expliquer ses objectifs.
Les élèves de CM2 de l'école de Bessé-sur-Allier, soutenus par Radio Bocage de Moulins en Auvergne, s'interrogent et interrogent aussi les citoyens sur la place d'Internet.
Bonjour, nous sommes les élèves de la classe de CM2 de Bessé-sur-Allier, commune qui se situe à 15 km de Moulins dans l'Allier.
Nous nous sommes intéressés à un sujet d'actualité, Internet.
Nous souhaitons savoir quel est le comportement des gens par rapport à ce nouveau mode de communication et d'information qui est Internet.
Nous sommes rendus dans les rues de Bessé-sur-Allier et nous sommes allés à la rencontre des Bessétois.
Sur les personnes interrogées, 72% étaient des femmes.
Nous nous sommes demandé ce que les gens faisaient sur Internet.
La plupart d'entre eux s'en servent comme moyen de recherche d'emploi de matériel.
D'autres l'utilisent pour Facebook ou encore cette dame qui préfère regarder des recettes de cuisine.
Je vais regarder les recettes de cuisine et puis tout ce qui est diaporama sur les animaux.
Sur toutes ces personnes que nous avons interviewées, nous nous sommes rendus compte qu'Internet ne prenait pas tout leur temps.
Certains restent sur la toile environ 1 heure par jour alors que d'autres n'y vont qu'un quart d'heure.
On va dire 1 heure, 2 heures même.
Pas très longtemps, hein. Allez, un quart d'heure.
Toutes ces personnes se servent régulièrement d'Internet, mais pour eux, quels sont les avantages ?
Tout est accessible grâce à Internet. On peut communiquer avec nos amis qui habitent en France ou à l'étranger.
Certains disent qu'il n'y a pas besoin de bibliothèque, qu'ils peuvent trouver plein de choses sur n'importe quel sujet sur Internet.
D'autres pensent qu'on peut communiquer sur l'extérieur ou encore trouver plein d'idées sur des choses intéressantes.
Eh ben, c'est que sans se déplacer, on peut trouver plein d'informations, donc c'est très pratique.
Beaucoup trouvent tout de même des avantages à Internet, mais quand nous leur demandons le risque d'Internet, certains pensent que les enfants peuvent être en danger.
La majorité a répondu qu'il fallait faire attention à la fraude.
Ah, les risques d'Internet, c'est surtout pour les enfants. Et puis de passer trop de temps dessus aussi et de passer à côté de plein de choses qu'on peut faire à l'extérieur au lieu d'être tout le temps sur l'ordinateur.
Certaines personnes pensent que sans excès, il n'y a pas de risque, alors que d'autres ont peur du piratage.
Il y a plein de trucs qu'il faut faire attention, tout ce qui est compte bancaire.
Toutes ces personnes se rendent compte qu'Internet est un bon moyen de communication, d'information, mais pourraient-elles s'en passer ?
Oui, sans problème. C'est pas indispensable pour moi.
Internet est un phénomène de société. On peut s'en passer malgré une place importante dans les foyers.
L'autre phénomène d'actualité est Facebook. Nous nous sommes penchés sur la question.
Plus de la moitié des personnes interrogées a peur pour nous face au danger de Facebook.
Parce que les enfants, il y a toujours un risque qu'il y ait des gens malhonnêtes qui se joignent à eux sur Internet et qui leur fassent faire des choses qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire ou de dire.
Nous nous sommes rendus compte qu'Internet présente des risques comme les fraudes et le danger pour les enfants, mais que c'est utile pour la recherche d'informations et pour communiquer.
Un journal local des jeunes sur Radio Mono est réalisé avec des élèves du lycée Jean Talon à Châlons-en-Champagne.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur RMN. Florian, je suis en première ES, spécialité sciences politiques au lycée Jean Talon. Dans le cadre de la semaine de la presse, nous nous sommes interrogés sur la façon dont les jeunes s'informent et quel est leur média favori. Eh bien, les jeunes consultent la presse écrite, même si cette dernière est clairement dépassée par le journal télévisé. En effet, la télévision est l'outil médiatique préféré de la jeunesse, grâce au côté attractif des images qui rendent plus accrocheurs les titres d'information. Sans transition, rubrique actualité régionale maintenant avec Maxence qui s'est intéressé aux jeunes qui sont de plus en plus nombreux à s'engager dans les partis extrémistes. Et enfin Alison qui quant à elle nous parlera du festival Mélimum. Jeunes gens, je vous laisse la parole.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui dans une revue dénommée Maginfo, un article de Pauline Godard nous annonce que de plus en plus de jeunes s'engagent dans les partis politiques, le plus souvent dans les partis extrémistes. Un jeune partisan du FNJ, le Front National de la Jeunesse, je cite « Les gens circulent et nous insultent en s'éloignant », nous annonce une interview du jeune Vincent Tilleul qui se définit comme un nationaliste depuis 23 ans. De l'autre côté, un partisan du parti d'extrême gauche, ancien membre du PS Parti Socialiste, a changé pour certaines raisons, je cite, « J'étais en désaccord avec la position du Parti Socialiste sur le sujet des retraites ». Pour conclure, de plus en plus de jeunes s'engagent dans les partis de l'extrême pour pouvoir enfin s'affirmer et dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Et comme nous le démontrent les résultats du sondage pour les élections présidentielles de 2012, environ 25% des jeunes ont une intention de voter FN au premier tour. Je laisse la parole à ma collègue Diolana.
Bonjour, Divertissement. Le magazine Vrille, ville de Reims Information, nous fait part d'un article sur le festival Mélimum ou comment nourrir l'imagination des enfants. Il se déroule du 21 mars au 9 avril. C'est ce qui rassemble un voyage dans l'univers coloré du spectacle jeune public. À travers ces spectacles, on peut voir un mélange des genres et une ouverture sur des cultures étrangères. De nombreux pays sont représentés comme la Belgique, le Japon, la Suisse et bien d'autres. On a de plus une touche d'exotisme venue de l'Amérique latine grâce au spectacle Le Roi Général. C'est un festival qui soutient la création à travers de nombreux partenariats confiants. Ils trouvent aussi un certain flair pour qu'on se souvienne de leur spectacle, notamment je cite Mongol ou S'embrasse ou Alphonse. Ils cherchent aussi à faire venir voir leur spectacle par des enfants du milieu scolaire, d'où leur délocalisation. L'Hebdo en parle brièvement de manière optimiste. Je cite « Mélimum met en avant des artistes de tous les horizons, de tous les pays ». Donc se focalise sur le fait que le festival transmet de bonnes valeurs culturelles. On peut trouver le programme du festival chez n'importe quel buraliste.
En Lorraine, du côté de Metz, Radio Pays de Lorraine est entrée dans l'école de Peltre pour faire connaître la radio locale aux élèves.
À Peltre, petit village de 1680 habitants, pour cette semaine de la presse, c'est l'école primaire CM1 et CM2 qui découvrent la radio.
Béatrice Julesonnet, sa directrice.
Eh bien, nous sommes dans un monde où les médias ont une grande importance, où l'information va très très vite. Je pense qu'il faut les éduquer à bien comprendre cette information et à faire attention et à rechercher les sources des informations. Et donc, cette semaine de la presse permet de leur montrer qu'il y a plusieurs médias déjà, et leur montrer que l'information peut aller très vite et peut être déformée. Donc faire attention à tout ce qu'on entend.
Le réel bonheur, c'est d'avoir cette radio au sein de ce village.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui ont cette chance d'avoir une radio.
Jean-François Dezin, directeur du périscolaire.
Donc on pense que c'est important de travailler avec elle et de montrer aux enfants qu'il y a un média vraiment proche d'eux.
Et quelle est l'importance de ces radios associatives ?
Roger Perquin, président fondateur de RPL.
Il est très important que les enfants découvrent une des radios associatives qui reste sur la place de Metz, radio associative qui sert d'ailleurs à l'éducation, tous les sens, et qui sert aussi peut-être à faire naître des vocations chez les enfants, des vocations de communication, des vocations de journaliste. C'est dans ce sens-là que travaillent les stations de radio associatives.
On plonge dans la découverte avec les enfants.
Bonjour, je m'appelle Thomas. Est-ce difficile de gérer une radio locale ?
Oui Thomas, c'est très très difficile. Disons que ça l'est devenu. De 82 à 86, on va dire, en règle générale, toutes les stations de radio FM étaient un tant soit peu pirates. La gestion, on n'était pas tenu par un cahier des charges, nous n'avions pas d'autorisation du CSA, et c'était comme tout un chacun, on pouvait faire un tant soit peu ce que l'on voulait. Nous avons eu l'autorisation du CSA, et à partir de ce moment-là, la gestion est devenue très très difficile. Nous devions nous acquitter, bien sûr, de la SACEM, de la SPRE, de tous les impôts, en fait, qu'il s'agit d'une station de radio qui diffuse de la musique et des informations. Nous sommes submergés maintenant par tout un processus de demandes administratives. Cela devient de plus en plus difficile. Alors à savoir que RPL vit uniquement sur la subvention du ministère de la Culture. Nous n'avons pas de mécénat à côté. Nous préférons travailler dans ce sens-là, tout simplement pour rester libre.
Radio Alpementiel de Fresnay a reçu dans son studio des élèves d'une école primaire de Marolles-les-Braux. Ils parlent de leur quotidien.
Bonjour Paul.
Bonjour. J'ai 10 ans. J'habite une ville rurale pas si grande que ça.
Bonjour Nora.
Bonjour, j'ai 11 ans. Au milieu, une école joyeuse comme si c'était Noël tous les jours.
Bonjour Dorian.
Bonjour, j'ai 9 ans et nous allons vous la faire découvrir. Ah, c'est vrai. J'ai oublié, elle s'appelle Notre-Dame.
Alors Paul, quels sont tes moments préférés ?
La récré.
La récré ?
Oui, nous faisons des jeux sportifs comme le basket, le ping-pong, le foot et un club d'échecs. Nous participons aussi à des rencontres sportives avec des élèves du secteur.
Vous travaillez de temps en temps dans cette école ?
Oui, bien sûr, nous faisons des ateliers de langue orale avec du théâtre et de la musique de 4 à 11 ans.
Et toi Nora, as-tu d'autres surprises ?
Bien sûr, nous faisons aussi le forum une fois par mois. Nous nous réunissons dans la salle de sport. Il y a les élèves, les profs et le personnel. Les délégués prennent la parole et nous montrons ce que nous avons préparé aux autres élèves.
Faites-vous la fête de temps en temps ?
Oui, bien entendu. La fête de Noël avec les stands dans l'école. La fête du carnaval avec le défilé costumé. Du théâtre, dans la salle polyvalente, et la kermesse avec les stands et la danse dans le parc municipal.
Prenez-vous le temps de manger ?
Oui, nous avons aussi le self. C'est super sympa. On s'occupe aussi des petits quand il pleut.
Bonjour Corinne.
Bonjour.
Et vous les parents ?
Nous les parents à l'école Notre-Dame, nous ressentons une grande convivialité. Nous y sentons bien et c'est pour ça que nous y allons et nous nous intéressons à tout ce qui se passe à l'école et nous participons à beaucoup d'activités. Et Dorian, peux-tu nous parler de ce que tu fais en dehors de l'école, tes activités ?
Sportif, il y a le judo, le tennis et le foot.
Et toi Nora, tu peux faire des balades à Maroc ?
Oui, nous allons dans le sentier pédestre. Et aussi, nous allons dans le parc.
Bien. Nous avons présenté notre école. Tu peux conclure, Paul ?
Oui. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et à bientôt.
L'arbre et la vie, c'est le thème de la rencontre entre l'école primaire de Saint-Léger-la-Martinière, radio D4V, de Mel dans les Deux-Sèvres et le maire de la commune.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio D4B, la radio sud de Sèvres. Aujourd'hui, c'est l'école de Saint-Léger de la Martinière qui anime le mini-magazine L'Arbre et la Vie.
Monsieur le maire, bonjour. La municipalité a décidé de rénover des haies anciennes et d'en planter de nouvelles. Pourquoi planter plus de 30 km de haies ?
Comme vous le savez, nous sommes une commune rurale qui accorde une très grande place à l'environnement. Pourquoi planter ? Tout simplement parce que le rôle de l'arbre au niveau de l'eau, du sol, de l'air, de la faune, de la flore et de l'homme est vital. L'arbre, c'est le protecteur du sol, des cours d'eau, des nappes phréatiques. Chaque feuille est une véritable usine qui pompe le gaz carbonique et nous redonne l'oxygène. Les haies sont également un refuge pour la faune. Elles participent à la sauvegarde des espèces végétales locales et anciennes.
Il faut rappeler que toute la population a été associée, notre école aussi, avec M. Geoffroy, notre directeur.
Effectivement, pendant le week-end du 15 janvier, on a pu bénéficier d'expositions, de marches découvertes, de lectures de contes, de démonstrations de sculptures sur bois, de vanneries, de projections de films. Mais vous les élèves de CM2, dites-nous ce que vous avez fait.
On a planté des arbres et des arbustes. On a d'abord creusé un trou avec une pelle. On est allé chercher un plant qu'on a trempé dans du pralin.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est de la terre, de l'eau et de la bouse de vache. Ça sert d'engrais.
Après, on le met dans le trou qu'on rebouche et on l'entoure avec un grillage.
Pourquoi ?
Pour le protéger des animaux comme les chevreuils.
Enfin, on met de la paille autour pour éviter les mauvaises herbes.
On a planté des chênes, des charmes, des noisetiers, des sureaux, plein d'essences différentes.
Mais à quoi ça sert ?
Les arbres renouvellent l'oxygène, on peut récolter des fruits, des noisettes, des prunes.
La haie abrite les animaux, elle sert aussi de coupe-vent pour les cultures. Elle empêche les inondations, elle donne de l'ombre aux promeneurs.
Et ça donne du bois pour se chauffer.
L'arbre, c'est la vie.
L'heure va sonner, le mini-magazine est terminé. Il a été présenté par Aline, Léna, Lucas et Yoann. Merci à Monsieur Christophe Labrousse, le maire de Saint-Léger-de-la-Martinière, et à M. Geoffroy, le directeur de l'école. Merci à Jean Perrin pour la mise en onde. D4B, ça continue en musique.
De commun entre le Louvre et Lens. Les élèves du lycée Bodimo nous l'expliquent avec PFM.
Bonjour, nous sommes 4 lycéens de Bodimo et nous participons à la semaine de la presse.
Ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui est l'arrivée du Louvre Lens. L'idée nous est venue en allant au stade Bollaert où nous avons pu voir les répliques des œuvres placées dans différents endroits du stade.
Depuis 2003, il y a une décentralisation des grands établissements culturels parisiens et notamment celle du Louvre. C'est de cette manière que le projet Louvre-Lens est né en 2004.
Une fois le projet accepté, un concours a été lancé pour désigner l'architecte qui s'occupera de la construction du projet. C'est le cabinet d'architectes japonais Sana qui a remporté ce concours. Il propose un bâtiment composé de 4 rectangles et un grand carré. Il est actuellement en construction, l'ouverture est prévue courant 2012.
À cette occasion, nous vous proposons un micro-trottoir réalisé dans les rues d'Arras.
Que pensez-vous de l'arrivée du Louvre-Lens ?
Eh ben, normalement, c'est une bonne affaire. Ça va attirer du monde et puis ça va faire marcher la région mieux que dans le temps.
C'est une opportunité pour la région, c'est très bien. On va faire des découvertes, on va avoir des œuvres qui vont passer chez nous et qu'on ne connaît pas du tout.
Bah, c'est une chose qui doit être bien pour la région. Hein ? Ça fera un truc à aller voir quand même.
Hein, on a vu les Thierry, maintenant on va aller voir le Louvre.
Personnellement, je trouve que ce n'est pas, c'est pas une bonne chose pour Lens. J'aurais préféré qu'il soit plus dans le secteur d'Arras que le secteur de Lens.
Je trouve que c'est un beau projet. Ça va faire vivre la ville de Lens et je pense qu'au niveau culturel, c'est très très bien.
C'est toujours bien d'avoir une annexe du Louvre, puis surtout à Lens qui est un peu défavorisée sur la culture. Mais je pense que ça aura un essor un peu plus régional et que c'est toujours intéressant. Puis ça va créer des emplois certainement, donc ça peut être que positif.
Et pensez-vous que vous vous y rendrez ?
Ah, pourquoi pas ? Bon, on n'est pas loin.
Bien sûr, je me rends dans les musées. Rien que celui d'Arras, j'y vais de temps en temps.
Oui, au moins une fois.
Oui, certainement. Pas de souci, même avec les enfants.
Probablement. Pourquoi qu'on n'irait pas ? Hein ? Faut s'instruire. Arriver à un certain âge, je ne veux pas mourir bête non plus.
Comme le soulignent certaines personnes dans ce micro-trottoir, le musée Louvre-Lens sera une nouvelle attractivité pour la région.
Il apportera aussi un développement économique et touristique qui sera favorable pour le Nord-Pas-de-Calais.
Ce sujet a été réalisé dans le cadre de la Semaine de la Presse par
Théophile Carton,
Félix Vertin,
Mathis Desmet,
Pierre-Antoine Pau.
Nous continuerons en musique à Tartas dans les Landes où les collégiens de Jean Rostand ont travaillé avec Radio MDM, Radio Mont-de-Marsan sur la création d'une chanson.
Je m'appelle Fabien Boeuf, je suis auteur, compositeur et interprète.
Comment est né le projet avec le collège de Tartas ?
C'est bien simple, moi je vais jouer dans un festival à Pontonx qui s'appelle Chantons sous les pins, où il y a des concerts un petit peu partout dans les Landes. Et donc ce festival m'a demandé, est-ce que tu veux fabriquer une chanson avec Tartas ? J'ai dit, ben ouais, pourquoi pas. Donc j'ai rencontré la prof de musique et les élèves. Ils ont choisi de quoi on allait parler, puis on a fait la chanson. Et...
Comment se passe la collaboration avec le groupe d'élèves ?
Pour l'instant, je suis très content. L'écriture est finie, je leur ai proposé une musique. Je trouve que le thème qu'ils ont choisi, c'est super intéressant. Ça parle d'écologie, de respect des animaux, des Indiens d'Amazonie, qu'on demande de déguerpir un petit peu parce que là, on voudrait planter des palmiers pour faire de l'huile de palme. Tout le monde n'en parle pas, mais c'est important de le dire que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, on leur demande d'aller habiter plus loin, quoi. C'est eux qui ont voulu parler de tout ça. Et donc, je trouve ça assez intelligent, quoi, de leur part.
C'est ici quelqu'un qui a fait...
D'accord. Est-ce que toute la classe voulait chanter et est-ce que certains étaient timides au début ?
Oui, il y en a qui étaient timides. Mais après, c'est passé vu que Fabien Boeuf nous a mis dans le bain. Donc, on a vite compris, en fait. Il fallait faire.
Ben, personne ne sait comment ça se fabrique une chanson quand on est en 6e ou même en 4e. Tous les artistes ne racontent pas comment ils font. Donc là, ils ont appris à faire une chanson et en plus, la chanson est sympa. En plus, ils vont faire un clip et en plus, ils vont la chanter sur scène. Donc ils vont faire plein de choses comme un vrai artiste.
C'est tout nouveau, donc ça stresse beaucoup.
Vous avez entendu que là, c'était pas super.
On apprend à chanter.
Ça, c'était le 2e. Alors attendez, on va écouter.
Il faut les sauver.
Quand on fait une chanson, c'est pas juste pour se faire plein d'argent, c'est pour aussi que les gens comprennent
que ça fait du mal pour la forêt.
Pour continuer dans une même dimension d'inquiétude sur l'environnement, dans le Finistère, Radio Nord-Bretagne a donné la parole aux élèves du lycée Sainte-Marie de Plouignou face à un spécialiste des algues vertes.
Depuis quand il y a des algues vertes ?
C'est un phénomène connu en Bretagne pour ses développements de marées vertes depuis les débuts des années 70. Ceci dit, l'algue verte, c'est une plante que l'on connaît en Bretagne depuis des siècles, on peut dire, hein, puisque l'Ulva armoricana est une espèce endémique à la Bretagne, c'est-à-dire une espèce qui pousse et qui est connue en Bretagne depuis longtemps.
D'où viennent-elles ?
Comme je le disais, hein, l'algue en elle-même n'est pas un problème, c'est une plante qu'on connaît depuis longtemps. Par contre, le phénomène marée verte, c'est-à-dire cette espèce d'excroissance, ou certains disent le cancer des eaux bretonnes, puisqu'on a une prolifération de cette algue, est un problème qui trouve son origine, deuxième moitié du XXe siècle, on va dire, dans la modernisation, on peut dire ça comme ça, de l'agriculture bretonne.
Pourquoi elle reste là ?
Elle reste là parce que pour qu'elle pousse, il faut des conditions bien précises que les scientifiques ont déterminées. C'est-à-dire qu'il faut une baie, un espace qui n'a pas trop d'échanges avec l'océan, un espace confiné, un estran avec une pente faible qui permet un bon ensoleillement de l'eau, un bon réchauffement de cette eau. Et puis donc ce confinement qui permet d'alimenter en permanence cette algue qui se reproduit par bouturage et qui est extrêmement opportuniste.
Quelles sont les conséquences et quelles peuvent être les conséquences sur la santé ?
Les conséquences de la marée verte, elles sont économiques. D'abord, une question d'image pour le tourisme. Il y a d'autres conséquences, puisque depuis qu'on a des marées vertes, on ramasse ces algues sur la plage, et en ramassant ces algues, souvent on détruit l'écosystème plage, c'est-à-dire on oublie un peu que la plage c'est un milieu vivant, et que quand on ramasse des algues, on ramasse aussi du sable, 30% je crois dans chaque ramassage. Au-delà des plages, les algues qui sont en suspension dans l'eau vont aussi contrarier l'activité conchylicole, se déposer sur les poches d'huîtres ou autres. Et puis il y a aussi toute la pêche côtière, tous les pêcheurs à la ligne, pêcheurs de bar par exemple, qui ont déserté les secteurs où il y avait des algues vertes. C'est le cas par exemple en baie de Douarnenez.
Comment y remédier ? Quelles sont les solutions ?
Alors la solution, elle a clairement été identifiée par les scientifiques de l'IFREMER. Parmi tous les facteurs qui influencent la marée verte, on ne peut pas jouer sur la luminosité, on ne peut pas jouer sur le confinement des baies. Donc on peut jouer que sur l'alimentation des algues. Elle est de deux ordres. C'est donc les sels minéraux nitrates et phosphates qui vont aider l'ulve à grandir. Et les scientifiques ont démontré à la fin des années 80 que le phosphate était stocké en grande quantité dans les sédiments marins. Et que même si on coupait l'arrivée du phosphate, le robinet à phosphate aujourd'hui, ça ne stopperait pas la marée verte. Ce n'est pas le facteur sur lequel on va pouvoir peser. Et c'est donc, par déduction, le nitrate qui va être, le sel minéral qui s'appelle le nitrate, qui va être le facteur limitant, celui sur lequel on va devoir jouer pour pouvoir mettre fin à ces marées vertes. Une fois qu'on a identifié le nitrate comme un des facteurs sur lequel il faut œuvrer, eh bien, la question, c'est de savoir d'où vient ce nitrate. Et le nitrate, justement, est d'origine agricole pour 95%, nous disent les scientifiques. Les 5 autres pourcents sont l'activité humaine, nos stations d'épuration ou assainissement non collectif. Et donc, il va falloir faire en sorte que l'on réoriente l'agriculture pour qu'elle soit une agriculture où les fuites de nitrate à la parcelle n'existent plus. Des solutions sont en voie d'être trouvées. C'est vrai pour les systèmes laitiers, puisque l'on a dans le plan algues vertes pour projet, notamment de réorienter des exploitations vers des systèmes herbagés, qui sont des systèmes moins polluants, et pour ça en ayant des réaménagements fonciers, etc. On a aussi l'intention de mieux se préoccuper du bocage et puis des zones humides qui avaient malheureusement tendance à disparaître et qui sont pourtant des zones qui piègent les nitrates et qui vont donc nous aider à lutter contre la marée verte.
Qui finance ?
Alors oui, parce qu'il va falloir avoir de l'argent pour tout ça, de l'argent pour aider les agriculteurs à réorienter leur système de production, voire à diminuer leur production animale, parce qu'on pense, nous, que dans un certain nombre de cas, c'est une nécessité, pour l'élevage hors sol notamment, porcin. Et donc pour aider, pour accompagner ces éleveurs qui sont d'ailleurs souvent dans des situations économiques difficiles en ce moment, eh bien il y a des financements publics qui interviennent. Alors jusqu'ici ces financements ils allaient plutôt vers le curatif, on finançait les ramassages et on finance toujours le ramassage des algues sur les plages. Et demain on espère que ces financements iront au préventif, c'est-à-dire à la réorientation des systèmes agricoles. Et c'est l'argent public, c'est de l'argent de l'État, l'argent de la région, l'argent des conseils généraux. Et tout cet argent, c'est un petit peu l'argent qu'on ne veut pas mettre dans le prix de nos aliments. C'est-à-dire qu'à vouloir toujours courir après l'aliment le moins cher, on se retrouve à payer sa tranche de jambon pas cher, mais à devoir compléter par des impôts ou des taxes qui permettent d'aller ramasser les algues vertes.
Que pensez-vous des images sur les algues vertes ?
Je pense que vous faites allusion à la campagne d'affichage du mois de février organisée par France Nature Environnement. Nous, à Haut-Rivière-de-Bretagne, on fait partie justement de cette fédération nationale. On n'a par contre pas été associé à cette campagne. Et je dois dire que cette campagne répond à une provocation, ce qui était jugé par tous les environnementalistes comme une provocation, qui consiste à avoir déposé un amendement à l'Assemblée nationale pour permettre aux élevages industriels bretons de s'agrandir encore plus. Et ce que nous, on jugeait comme une provocation, bah, finalement, France Nature Environnement y a répondu par une autre provocation qui consiste à étaler sur les murs, ou alors d'ailleurs, ils n'ont pas été affichés, mais au moins à faire grand bruit dans la presse, des images qui sont de toute façon de nature à brusquer les relations, à provoquer, et en tout cas à diffuser un message réducteur. C'est de toute façon pas dans la communication et la polémique que l'on règle ces problèmes. Nous, on est plutôt favorable à la discussion, à l'échange d'arguments plus étayés que de simples messages de communicants.
On finira en toute légèreté avec une passionnante et quelque peu loufoque enquête menée dans le Pas-de-Calais sur l'existence des extraterrestres.
Bonjour Saint-Péterien.
C'est Alexandre,
Julia
et Jérémy sur PFM Radio.
Dans le cadre de la semaine de la presse en relation avec le lycée Baudimont, nous allons traiter le sujet d'une existence potentielle ailleurs que sur Terre.
Sommes-nous les seuls dans l'univers ? Cette question turlupine une bonne partie de l'humanité depuis des décennies.
Et nous, jeunes reporters, sommes allés dans les rues d'Arras pour connaître le point de vue de certaines personnes.
Que pensez-vous quand on vous dit qu'il y a une forme de vie ailleurs que sur la Terre ?
Mais moi j'y crois, c'est tout.
Pourquoi pas ? Bah on s'attend à tout, hein. Le monde c'est un peu... On nous fait croire ce qu'on veut bien.
Peut-être y a-t-il un dieu, mais j'en sais rien du tout.
Bah j'espère que nous sommes pas seuls dans le monde. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de doutes.
Bah tout ce qui est extraterrestre, moi j'y crois franchement.
Non mais c'est pas vrai, c'est des mythos. Bah sans oxygène on peut pas respirer, donc c'est pas possible qu'il y a d'autres gens qui respirent ailleurs.
Faut arrêter de fumer des gros pétards.
Je suis un petit peu comme Saint Thomas, moi je crois que ce que je vois et tant que je ne le vois pas, non j'y crois pas.
Bah peut-être oui, on a peut-être des amis extraterrestres là-haut dans l'univers.
On peut pas être les seuls intelligents en fait sur tout le système planétaire, c'est pas possible, enfin sur tout le système de l'univers, c'est pas, non, c'est pas concevable. Donc forcément il y a une vie extraterrestre, oui il n'y a pas de problème.
Et vous pensez qu'ils sont comment ?
Ça, je sais pas. Comme toi, avec une capuche et puis...
La bonne moumoute.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
C'est fort possible. Enfin, fort possible par rapport à ce que j'ai pu entendre vis-à-vis des médias, de la science en elle-même. Maintenant, rien de concret à l'heure actuelle. Mais je peux y croire. Pour moi, je peux y croire.
On s'aperçoit que sur ce sujet, les avis sont différents. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Si vous avez un avis à nous faire partager, contactez-nous au 03 21 50 99 99.
Ce sujet a été réalisé par
Alexandre,
Julia
et Jérémy dans le cadre de la semaine de la presse avec le lycée Baudimont.
Les radios associatives dans la semaine de la presse et des médias à l'école 2011 se terminent. Nous espérons vous avoir fait passer un agréable moment à l'écoute de toutes ces jeunes voix citoyennes venues de 20 radios et de 15 régions françaises.
Ce programme a été réalisé avec le concours de Radio Laser,
Radio 4,
La Voix du Béarn,
Radio Audio,
Bac FM,
Radio Chalette,
Fréquence Sillée,
PFM,
Info RC,
Active Radio,
Radio Galère,
Radio Cactus,
Radio Bocage,
Radio Mono,
RPM,
Radio Alpes-Mancelles,
RNB,
D4B,
Radio MDM.
La coordination technique et le montage final ont été assurés par Fréquence Sillée et les lycéens de Ciel-Fillon.
Parmi eux, nos remerciements particuliers à Aline, Idaline, Laurine, Mathilde et Sarah de Terminal L. C'était une production du Syndicat National des Radios Libres. dans le cadre de la Semaine nationale de la presse et des médias à l'école 2011.